Et dans notre club cet après-midi, les trois lauréats de ma thèse en 180 secondes de la géographie dans les Vosges, une tragicomédie sur la planète Terre et puis de la science improbable avec le docteur Barthes. Je vous présente mes invités dans un instant. Et puis à la une de la science aujourd'hui, ça chauffe dans le tombeau de Toutankhamon. Axel Villard, bonjour.
Et oui Mathieu, hein, tous les passionnés d'Égypte frétillent depuis hier. Il y aurait deux chambres secrètes cachées dans le tombeau de Toutankhamon avec dedans, pourquoi pas, la tombe d'une reine. Alors on fait le tour des possibilités dans un instant avec deux égyptologues et vos questions sur Twitter.
Et bien voilà pour le sommaire de ce club qui est réalisé par Stéphanie Texier et qui a été préparé par Emmanuel Fournier avec Margot Dullard.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et il y a du monde dans notre club donc aujourd'hui en studio. Pierre Barthélémy et les trois lauréats de ma thèse en 180 secondes qu'on appelle déjà les 3A, Abdelkader, Alexandre et Adrien. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Adrien de Liège, Alexandre Artaud, Abdelkader Meni Mazoum. Vous êtes donc les trois lauréats de ce concours, la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Ça se déroulait hier soir dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. D'abord, félicitations à tous les trois. Comment vous vous sentez là cet après-midi? Qu'est-ce qui domine comme sentiment après cette prestation que vous avez effectuée, Alexandre?
De l'euphorie avant tout.
Oui.
Bah, après une aussi bonne soirée, une nuit un peu courte.
Oui, mais vous êtes couché tard. Hein,
ah, on s'est couché tard, mais en même temps, il faut célébrer un petit peu.
Et c'est ça la gloire maintenant, hein, avec les journalistes, Adrien, qui vous ont beaucoup sollicité, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a eu pas mal d'interviews hier soir. C'était assez éprouvant. Et puis, on a été boire un verre avec les Belges et on a fait une petite nuit également.
C'est vrai, les Français, les Belges et les Marocains, Abdelkader. Hein. Vous aviez votre famille? Non, je crois que c'est votre cousine qui est venue vous encourager.
Oui, il y avait aussi ma famille au téléphone.
Ouais.
Ils étaient tous heureux de me voir sur le podium.
C'est vrai. En tout cas, félicitations parce que vous avez franchi toutes les étapes, hein, depuis le régional, le national et l'international. Donc c'était hier. On va vous retrouver dans un instant. On écoutera d'ailleurs un extrait de vos prestations livrées donc hier soir au public. Et puis on discutera également quand même aussi de vos travaux scientifiques. Pierre Barthélémy, vous êtes journaliste scientifique. Vous revenez avec un ouvrage, La science improbable du docteur Barthes. Ça c'est la nouveauté, hein, le personnage du docteur Barthes. On va en parler avec vous. Et au fond, vous êtes un peu dans le même état d'esprit que nos thésards, avec ce souci aussi de parler de la science à tout le monde. Hein.
Exactement, l'idée c'est de parler de science qui fait sourire, qui fait réfléchir, d'ouvrir des portes sur la science à ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'y entrer.
Voilà, avec des questions intéressantes, comme la barbe fait-elle une bonne crème solaire? Qu'est-ce qui se passe quand on donne du LSD à un éléphant? Il se passe des choses affreuses.
Affreuses.
On verra ça avec vous. Est-ce qu'on peut se saouler aussi par les pieds?
Voilà, hein. Grande question, c'est une grande légende urbaine.
Voilà, et des scientifiques ont travaillé sur ces questions. C'est pour ça que vous en parlez. Frédéric Aïtouati, vous êtes en duplex de Grenoble où se joue ce soir Gaïa Global Circus. C'est une tragicomédie climatique. Bonjour à vous. Dans la tragicomédie, le dénouement en général est heureux. Est-ce que c'est le cas avec Gaïa?
C'est heureux si le public part avec l'impression que c'est à eux de jouer. Mmh. Donc, c'est pas forcément heureux dans la pièce, mais en général, dans la discussion après, ça repart, oui.
Et on en discutera avec vous, donc, cette pièce autour du climat et la difficulté, justement, aussi pour les scientifiques, hein, de parler de ce thème en ce moment. Voilà pour les sujets dont on va parler dans ce club des Têtes au Carré. Vous êtes bien sûr les bienvenus avec vos messages. Toutes vos questions à nos invités, c'est franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À l'une de la science, aujourd'hui la tombe du pharaon Toutankhamon qui fait beaucoup parler d'elle.
Et le mec lui dit, c'est le pharaon. Parce qu'il s'appelle On le mec. Mais c'est le pharaon, comme le pharaon qui est le chef de nous.
Voilà, dans l'actualité, hier soir au Caire, l'archéologue Nicolas Riz et le ministre de l'archéologie annonçaient la présence plausible de deux chambres cachées jouxtant le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois. Tous deux espèrent y trouver, paraît-il, la tombe de Néfertiti, épouse et cousine d'Akhenaton, ou celle de Kia, sa plus célèbre courtisane. J'espère que vous nous suivez jusque-là. Une annonce qui a fait énormément de bruit et on souhaitait faire le point entre fantasme et réalité avec deux égyptologues. Pascal Vernus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études émérite à l'école pratique des hautes études et Marc Gabold, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université Paul Valéry à Montpellier et auteur d'un livre sur Toutankhamon qui tombe bien puisqu'il sort, je crois, aujourd'hui. Pascal Vernus, quelles sont les informations dont on peut être certain dès aujourd'hui au sujet de cette pseudo-découverte? Parce qu'on n'a rien découvert encore pour le moment. Hein.
Absolument. Il faut distinguer le plausible de l'hypothétique. Alors, il est plausible qu'il y ait effectivement deux salles qui étaient obturées donnant sur la salle du sarcophage dans la tombe de Toutankhamon. On le sait parce que certaines photos laisseraient voir que derrière les fresques, il y aurait des ouvertures. Ça, c'est le plausible. Mmh. Maintenant, l'hypothétique, c'est qu'il s'agit d'une, il s'agirait d'une, de la tombe de Nefertiti ou de Kia ou d'une autre. Ça, c'est tout à fait hypothétique. Et on saura peut-être une partie de la vérité le 4. On va faire venir un radar qui va voir si déjà on est sûr qu'il y a quelque chose derrière. C'est la première chose.
Donc dans deux jours, on aura déjà un élément de réponse.
Ah, en novembre, en novembre.
Ah, en novembre, d'accord.
Malheureusement, il faudra encore attendre un peu.
Marc,
oui, il faut distinguer le plausible de l'hypothétique. Toutes les spéculations, s'il s'agirait d'une tombe cachée, ça c'est vraiment hypothétique, c'est possible, mais c'est vraiment hypothétique. Maintenant qu'il y ait deux pièces qui étaient obturées, c'est tout à fait plausible, et pourquoi pas, hein.
Et Marc Cabol, vous avez, je crois, étudié ces photos pour vous aussi. Ces chambres cachées sont envisageables ?
Envisageables, mais les traces que l'on voit... c'est des irrégularités de la surface, les interpréter comme des traces d'ouverture, c'est déjà un pas audacieux. Hein. Si on regarde les autres parois de la même chambre où on a également des traces, on est certain qu'il n'y a pas de chambre supplémentaire sur ces autres murs. Donc il faut attendre effectivement les vérifications qu'il pourrait y avoir avec les radars. Il peut tout simplement y avoir des tentatives de creusement qui ont été rebouchées ou tout simplement différentes zones de travail de deux équipes d'ouvriers qui se sont rencontrées et qui ont laissé une légère dépression.
Donc vous êtes plus que dubitatif, si je comprends bien.
Voilà, moi je suis pour l'instant extrêmement prudent, hein. Je serais très étonné. Et en plus, si vous voulez, le trésor de Toutankhamon est très complet. On a heureusement un peu de mobilier d'autres tombes royales qui nous permet de comparer. Et en fait, il ne manque rien dans la tombe de Toutankhamon. Donc on ne voit pas très très bien ce qu'il y aurait dans ces chambres cachées. Et quant à une sépulture inconnue et celle de Nefertiti, là, à mon avis, c'est extrêmement peu vraisemblable, d'autant plus que la reine pharaon, car on sait qu'il y a une reine pharaon qui a régné entre Akhenaton et Toutankhamon, est plus probablement la fille de Nefertiti que Nefertiti elle-même.
Et Pascal Vernus, en parlant de Nefertiti, elle a déjà été identifiée, sa tombe et sa dépouille.
Alors, sa dépouille, on n'en est pas sûr, mais il est très probable que sa dépouille, ça soit la dame momifiée qu'on appelle la Young Lady, dans la tombe d'Amenhotep II qui avait servi de cache pour récupérer les tombes royales lorsqu'elle était menacée d'être pillée. Donc, la tombe de Nefertiti, c'est vraiment très, 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 très spéculatif.
Alors, Marc Gabol, justement, imaginons que la présence de ces chambres soit confirmée. Comment on pourrait les explorer, là, sans détruire, évidemment, les fresques du tombeau de Toutankhamon ?
Ah ben là, ce sont des techniques extrêmement coûteuses et délicates, parce qu'effectivement, il faut faire des perforations sous les peintures, alors déjà à une altitude qui permette de ne pas endommager le décor, et se glisser à plat ventre pour aller fouiller, ce serait extrêmement délicat. On peut aussi essayer d'enlever les peintures, mais là, ça me semble même une entreprise extrêmement dangereuse pour ces peintures qui sont bien conservées. Donc ce serait assez dommage de les mettre en péril si on n'a pas une certitude qu'il y a quelque chose derrière.
Et si jamais, Pascal Vernus, il y a quelque chose, quelles pourraient être les autres prétendantes que Nefertiti, ce tombeau caché ?
On a pensé à Kia, qui était une favorite du roi Akhenaton, qui a été répudiée, mais dont on n'a plus trouvé la trace. On pourrait penser à Nefertiti, on pourrait penser surtout à Meritamon, la fille de Akhenaton, dont parlait très bien Marc Gabold. Mais je vous dis, tout ça est extrêmement aléatoire et hypothétique, et je pense qu'il y a quand même une raison à ce battage médiatique, c'est que pour l'instant, il y a un marasme sur le tourisme en Égypte, et que c'est quand même une excellente occasion de refaire parler de l'Égypte et de refaire venir les touristes.
Hein. Marc Gabold, vous êtes d'accord avec ça, parce que les fouilles dans la vallée des rois sont gelées maintenant depuis quelques années, donc là on a effectivement cette annonce. On nous donne des choses assez spectaculaires, la plus grande découverte du siècle en matière d'égyptologie. Enfin, on nous vend déjà des choses avant même d'avoir apporté des preuves.
Ah oui, c'est sûr que faire un peu de publicité dans ce sens-là est excellent. Et je m'en réjouis hein, pour l'Égypte. Dire que les fouilles dans la vallée des rois sont arrêtées, non. Il y a par exemple l'université de Bâle qui fouille et qui trouve des tombes nouvelles et des tombes très intéressantes. Donc, mais c'est vrai que faire parler avec autant de choses positives ou éventuellement positives de l'Égypte et de ses trésors, je m'en réjouis personnellement pour les Égyptiens, pour et même pour la science, parce que pourquoi pas, à la limite, Riff pourrait avoir raison, mais je dois dire que sur les éléments que j'ai vus, pour l'instant, je reste très prudent et dubitatif.
Marc Gabold, vous citez, donc, vous sortez un livre, Toutankhamon, aux éditions Pygmalion. Oui. Est-ce que vous avez des révélations croustillantes pour le lecteur?
Ah, croustillante, je ne sais pas. J'ai essayé de traiter Toutankhamon comme n'importe quel pharaon et n'importe quel pharaon, c'est-à-dire un pharaon dont la tombe aurait été pillée, c'est-à-dire je me suis détaché le plus possible de ce trésor qui est à la fois éclatant et éblouissant pour voir un petit peu tout son règne derrière. Et puis j'ai également identifié un certain nombre de pièces qui proviennent du trésor et qui ne sont pas au musée du Caire. Donc ça, c'était une longue enquête à la Sherlock Holmes, mais qui a donné des résultats assez intéressants.
Et puis Pascal Verdus, toujours le dictionnaire amoureux de l'Égypte pharaonique, justement, si mes souvenirs sont bons.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous donner vos précisions dans cette Une de la science qu'on peut retrouver sur le net, évidemment, Axel.
En podcast, comme tous les jours, en plus du dossier, avec peut-être la réponse le 2 novembre, savoir s'il y a ces chambres cachées ou non.
Merci beaucoup, franceinter.fr, évidemment. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les personnes de grande taille seraient-elles plus exposées au cancer? C'est une étude suédoise réalisée sur 5 millions de personnes qui montre que tous les 10 cm, le risque de cancer augmenterait de 10% chez les hommes et de 18% chez la femme. La cause suspectée, les personnes de grande taille ont un nombre de cellules plus élevé dans leur corps, donc un plus gros risque de développer des formes de cancer. Des chiffres qui restent à confirmer, comme le précisent les chercheurs eux-mêmes dans la présentation de leurs travaux. Les plus petits escargots du monde viennent d'être découverts par des biologistes chinois et suisses dans une province calcaire du sud de la Chine. Les chercheurs ont identifié 7 nouvelles espèces d'escargots, tous nains. L'un d'entre eux, Angustophila dominicae, mesurerait même moins d'un millimètre de diamètre. Des découvertes qui pourraient aider aux recherches sur l'évolution du nanisme chez les invertébrés. Une photo de la minuscule coquille est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré et sur notre compte Twitter. Et puis une idée de sortie pour ce week-end, la 11e édition du festival Paris Science qui commence du 1er au 6 octobre, donc ça a commencé hier. Vous pouvez retrouver le meilleur du film scientifique français et international au Muséum à Paris, à l'Institut de Physique du Globe et à l'Université Pierre et Marie Curie. Édition consacrée à la lumière, mais surtout au climat, avec en ouverture la projection du dernier film de Luc Jacquet, La glace et le ciel. Le reste de la programmation est à retrouver sur parisscience.fr. Allez, le club des têtes au carré dans un instant, avec entre autres les 3 lauréats de la finale internationale de ma thèse en 180 secondes. Alabama Shakes avec Future People.
La tête au carré. Le club.
Et dans le club aujourd'hui, les trois lauréats de ma thèse en 180 secondes, la science improbable du docteur Barthes, une tragicomédie climatique et puis de la géographie. Nous irons également faire un petit tour à Saint-Dié dans les Vosges. Vos messages, franceinter.fr et le mot-clé, la taxe. C'était donc hier soir à la Sorbonne, finale internationale de ma thèse en 180 secondes. 8 nationalités francophones cette année étaient représentées pour ce concours de vulgarisation scientifique organisé par le CNRS et la CPU. 16 étudiants au départ, 3 minutes chrono pour intéresser le public à leurs travaux de recherche. Parfois d'ailleurs assez complexe. Et puis au bout du chemin, 3 prix, plus le prix du public que vous avez donc remporté, Abdelkader, Alexandre et Adrien. C'était quoi? C'était stressant hier soir ou finalement vous avez quand même réussi à prendre du plaisir pendant votre prestation, Alexandre, tiens, qui a été un bon showman.
Pendant la prestation, oui, quand même un peu de plaisir, ouais. Même de plaisir, comme ils disent au Québec.
Ouais.
Et aussi beaucoup de plaisir pendant toute la soirée de pouvoir regarder... nos nouveaux amis de plein de nationalités différentes.
C'est ça, ouais.
Excellente ambiance hier.
Ah, ça c'est vrai pour le coup parce que je trouve qu'il y avait vraiment il y avait pas trop de compétition, en tout cas ça se sentait pas.
Il y avait une très bonne ambiance au niveau du groupe.
C'est ça.
On s'encourageait toujours les uns les autres et il y avait vraiment aucun problème donc.
On vous sentait très soudés, c'est vous qui faisiez la claque d'ailleurs, la plupart du temps plus fort que tout le monde.
On nous l'avait pas demandé.
Absolument. Abdelkader, c'était la première fois que vous veniez en France, vous êtes du Maroc.
Oui, effectivement.
C'est
oui.
ça. Donc c'était aussi pour vous une expérience intéressante que d'arriver à Paris.
Ouais, bien sûr. C'est Paris, c'est la plus grande ville visitée au monde. C'était vraiment, c'était un rêve d'être ici avant.
Ouais. Voilà. Et cet amphithéâtre de la Sorbonne, qui est un lieu un peu impressionnant hein, quand même, qui pèse comme ça, on arrive là-dedans sur les épaules avec cette hauteur incroyable. Ouais. Est-ce que vous êtes senti à l'aise dans cette salle d'abord, qui est un lieu particulier quand même pour...
Un lieu particulier, d'avoir le regard de Descartes, de Lavoisier, de Pascal,
ils sont tous là.
C'est quand même quelque chose.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Et alors ?
On s'y fait assez vite, je pense. En tout cas, pour ma part, j'essaie de pas trop y penser.
Ouais.
Plutôt de me dire que j'étais dans un amphi à peu près normal et puis faire mon truc sans trop penser au passé de cette salle.
Ouais. Pierre Barthélémy, ma thèse en 180 secondes. Donc ça fait 2 ans maintenant qu'on a ce concours en France, après les Québécois et puis les Australiens qui ont lancé ça. C'est une idée formidable quand même, non ?
Oui, c'est une idée excellente, justement, à la fois pour... faire parler de la science de manière simple et puis aussi pour former les futurs scientifiques qui sont pas toujours très à l'aise face aux médias et au public. Donc ça les voilà, c'est une formation en accéléré pour leur leur faire parler de faire de la vulgarisation, de la médiatisation, de la médiation comme on dit.
Ouais.
Donc je pense que parfait, faut continuer.
Abdelkader, donc c'était la première participation du Maroc. Vous avez reçu le 3e prix de
deuxième participation. Mais la première fois que le Maroc est sur le podium.
Exactement, avec donc ce jury présidé par Cédric Villani.
Ouais.
Quel était votre sujet de thèse, Abdelkader ?
C'est essayer de développer une méthode alternative à la lutte chimique contre une chenille qui s'appelle le Carpocaps.
Ouais.
C'est le ver de la pomme.
Et on va écouter un extrait de votre prestation. Donc, c'était hier soir sur la scène de la Sorbonne.
C'est l'histoire d'une pomme. Non, pas celle offerte à Blanche-Neige par sa marâtre. C'est une pomme moderne, actuelle, la pomme de nos vergers. Cette pomme est ruinée par une chenille, le Carpocaps. Pour lutter contre cette chenille et contourner l'utilisation des pesticides chimiques, l'objectif de ma thèse est de rechercher et expérimenter des méthodes alternatives. Précisément, des huiles essentielles extraites de plantes aromatiques et médicinales. J'ai testé et je continue de tester ces huiles essentielles sur le Carpocaps dans le laboratoire et à l'échelle des vergers de pommiers. Finalement, 3 pommes avaient changé le monde. Celle de Blanche-Neige, il y a eu celle de Newton, celle de Steve Jobs et peut-être aujourd'hui, ma pomme. Merci.
C'était gonflé quand même, hein, de proposer votre pomme juste après Newton et Steve Jobs. Vous avez fait rire le public finalement, et ça vous a porté chance. C'était important de travailler pour vous sur des images. Comment on fait pour vulgariser justement comment vous travaillez exactement pour présenter comme ça votre sujet de thèse
hein. L'effet de l'image est aussi important que de la voix, que du discours, la manière de présenter. Maintenant, avec l'ère des médias, les couleurs, ça pèse sur le message, sur la communication en général.
Ouais. Adrien, vous avez travaillé sur de nombreuses versions, vous, avant d'arriver justement à celle que vous avez proposée hier au public.
Il y a eu quelques versions d'essais, effectivement. Ça a commencé par une version beaucoup trop longue, puis par une version que j'ai présentée à la famille, aux amis, etc., qui a été remaniée, pour finalement arriver au texte final. Donc c'est tout un processus quand même.
Ouais, mais comment on s'y prend, Alexandre? Alors on pose d'abord le sujet de thèse, la très scientifique, avec tous les termes abscons, et puis ensuite on essaie de nettoyer tout ça.
Ah, moi, c'est pas fait comme ça dans mon cas. Moi, j'ai vraiment eu un choix très cornélien, le sujet de discussion avec mon directeur de thèse, de savoir comment on allait aborder la question. Et donc moi le choix c'était assez simple. D'un côté c'était plus mon avis, c'était d'aller directement sur les concepts physiques, expliquer seulement la science sans parler de quelque chose de vraiment appliqué derrière. Ou sinon une autre approche c'était de parler d'un vrai problème qui puisse parler à tout le monde et de dire que ma thèse était la solution à cet énorme problème. Et finalement cette deuxième solution me mettait un petit peu mal à l'aise, peut-être parce que le problème n'existe pas encore, mais je ne doute pas qu'il finira par se montrer. Et j'ai donc parlé uniquement de physique, et à partir de là, on travaille, on raccourcit, on soigne les images.
Avec un sujet peu flatteur, quand même, au départ, hein, quand même.
Un peu flatteur.
Bon, bah, écoutez, donnez-nous votre thème de thèse, on va pouvoir en juger.
Mon sujet de thèse est très simple, spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur.
Voilà, c'est vrai, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, quoi.
Exactement.
Et on peut parler d'amour et de paix, même, avec ce sujet-là, la preuve.
Être un électron dans le graphène, c'est un petit peu comme faire une thèse de doctorat. La performance, certes, mais à quel prix ? Et nous voici donc à la croisée des chemins, avec d'un côté la supraconductivité, l'amour, et de l'autre le graphène, la thèse. Et il nous faut choisir. Eh bien non. Le but de ma thèse, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin de choisir. Il s'agit donc de fabriquer du graphène sur du rhénium, un métal supraconducteur, et de s'intéresser au comportement des électrons à l'interface entre les deux. Normalement, on devrait trouver des couples d'électrons schizophrènes qui dansent la valse. C'est-à-dire des électrons qui seraient à la fois thésards et amoureux. C'est un état exotique de la matière. Et finalement, c'est ça ce que je veux faire de ma vie.
Voilà, Pierre Barthélémy qui découvre justement votre prestation. Mais c'était bien cette idée, hein, de comparer le thésard à l'électron.
Faire de sa vie un état exotique de la matière, je trouve que c'est quand même assez gonflé. Moi, je voulais savoir, c'est combien de temps au total ça vous a pris pour préparer, pour arriver de l'idée de départ à la version aboutie.
C'est ça, oui.
Mais... c'est pas du temps actif.
Oui, j'entends bien, mais est-ce que ça se compte en jours, en semaines?
Oui, c'est en semaines. En fait, c'est des idées qu'on mature. Je sais pas, je rentre du travail, j'ai 10 minutes de vélo, et ben, je réfléchis à ça. Lorsque je suis sous la douche, je répète mon texte. Enfin, c'est des choses aussi bêtes que ça. Et puis, petit à petit, les choses s'affinent. On garde une idée qui nous plaît, on jette quelque chose qui finalement n'est peut-être pas aussi pertinent qu'on le croyait. Ouais. Et puis, petit à petit, on raffine un petit peu son travail.
Ça travaille de longue haleine. Il faut pas bosser ça non-stop pendant 10 jours. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment laisser venir les choses petit à petit, comme vient de dire Alexandre.
Mais ce qui est intéressant aussi, Alexandre, c'est que non seulement vous parlez de votre sujet thèse, bien sûr, mais aussi de la vie du thésard. Il y avait une petite parenthèse un peu plus personnelle au fond, mais qui était intéressante aussi sur la vie du thésard. Alors sur votre vie à vous aussi, mais sur ce que vous vivez aussi en tant qu'étudiant.
Ah bah oui, finalement, parce que je parle d'un électron qui a un peu le choix entre une vie amoureuse et sociale épanouie et puis une vie plus austère de recherche et de travail. Ouais. Et finalement, c'est un peu la situation que tout thésard... à quel tout thésard fait face à un moment dans sa thèse de se dire, est-ce que je me dévoue corps et âme à la recherche comme à un sacerdoce, ou est-ce que je m'accorde plus de temps à côté, parce que finalement c'est peut-être ça le secret d'une vie heureuse.
Et c'est quoi justement votre sentiment aujourd'hui quand on s'engage dans le milieu scientifique, qui est un milieu de recherche assez peu valorisé, avec des conditions de travail difficiles? C'est vrai qu'il y a du sacerdoce quand même là-dedans.
C'est malheureusement le mot qui correspond le mieux en ce moment, c'est que faut beaucoup de motivation, pas mal de courage, la persévérance même lorsqu'on a l'impression qu'on se jette dans un cul-de-sac. Mais je pense que lorsqu'on a l'amour de la science et l'amour de la thèse en règle générale, on ne peut pas faire autrement que se lancer dedans.
Donc vous allez poursuivre.
Ah, je ferai tout pour ça.
Ouais. Adrien aussi, pour la Belgique.
Oui, tout à fait. Maintenant, il y a quand même plus ou moins moyen de concilier la vie sociale et la thèse. C'est quelque chose que j'essaye de faire et que je pense qu'on arrive à faire de mieux en mieux. C'est vrai qu'on avait certains profs qui pensent à la science, la vie c'est la science. Je pense que les mentalités évoluent un petit peu et bon, de plus en plus, on essaye de concilier les deux.
Mmh. Oui, on les concilie. Allez pas croire qu'on vient fermer dans les labos.
On ne fait pas les calculs toute la journée dans notre bureau.
Vous êtes des êtres humains aussi, bien sûr, comme tout le monde. Abdelkader, l'état de la recherche justement et des études, en tout cas pour les étudiants en sciences au Maroc. À quoi ça ressemble?
C'est comme en France, en Belgique. C'est la différence qu'il y a moins de moyens d'équipement. Mmh. Mais on fait avec, on essaye de... On essaie d'avancer, on essaie de se placer avec les autres équipes de par le monde.
Donc il faut beaucoup de motivation.
Ouais, bien sûr.
Quand même. Oui. Aussi. Et puis donc le lauréat. Alors Alexandre, vous avez quand même eu deux prix, hein, le prix du public et le deuxième prix. Il fallait quand même le signaler. Vous avez remporté deux trophées. Et puis Adrien, donc de Liège, qui est de l'université de Liège, le premier prix. Un mathématicien, puisque c'est vous qui remporte le premier prix dans un concours dont le président du jury est lui-même un mathématicien, Cédric Villani, ça ne serait pas un petit peu louche quand même?
Aucun raccourci. Je ne dis pas ça en tant que deuxième lauréat, mais c'est jaloux.
Il y a déjà vu mon dauphin, là, il ne supporte pas.
Je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table. Mais non, vous avez été brillant, bien sûr, puisque vous êtes arrivé le premier et on écoute un extrait de votre prestation.
El Niño est le terme utilisé pour désigner un réchauffement anormal de la température de l'océan Pacifique au niveau de l'équateur. C'est un phénomène naturel qui se produit tous les 3 à 7 ans et que les scientifiques ont bien du mal à anticiper. Et c'est là que j'interviens. Je réalise une thèse en mathématiques appliquées à l'étude de signaux, comme cette courbe de température de l'océan Pacifique, par exemple. Et une partie de mon travail consiste justement à prédire l'évolution de cette courbe-ci, ainsi donc que l'apparition des prochains El Niño. El Niño est un phénomène qui touche de nombreux pays. Il affecte leur récolte, leur population, leur économie. Mettre au point des méthodes qui permettent de détecter 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance l'arrivée du phénomène est donc primordial. Quant à vous, avant de partir en vacances à l'autre bout du monde, n'oubliez pas de consulter les prévisions El Niño. Merci.
Bravo. Voilà. Il est malin, Adrien, parce qu'il parle de mathématiques, bien sûr, mais de climat aussi, hein, dans le cadre de la COP21. Il s'est dit, tiens, je vais faire un sujet de thèse d'actualité. C'est le hasard, évidemment. C'est ce qui vous intéresse. Prédire les apparitions du phénomène climatique El Niño, c'est comme prolonger une partition de musique à la fin du morceau. C'est ce que vous avez proposé. Donc, il faut travailler sur ces métaphores. C'est vraiment important pour sensibiliser le public.
Pour vulgariser des maths, surtout, il faut vraiment travailler sur des métaphores, sur des images qui sont accessibles à tout le monde. La musique, ça parle à tout le monde. Des partitions, tout ça parle à tout le monde et donc c'est vraiment là-dessus que j'ai misé pour essayer de faire passer le message.
Ouais. La question climatique, la conférence sur le climat fin novembre, ça vous intéresse évidemment, j'imagine?
Ça, c'est très intéressant, effectivement. Ouais. Je vais essayer de suivre ça de loin et voir un peu ce que je peux en retirer.
Ouais. Et là, donc c'est l'apport des mathématiques, en tout cas, dont vous avez parlé autour de ce phénomène El Niño. On a le sentiment, lorsqu'on vous voit sur scène avec toutes les disciplines, que les sciences humaines sont presque plus difficiles à vulgariser, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à vos sujets de sciences dures, Alexandre?
Sur les sujets de sciences dures, d'une certaine manière, la facilité ironique, c'est que les gens n'y comprennent rien de base.
Oui.
Donc on peut inventer n'importe quelle métaphore pour que ça parle aux gens. Ce qui est un véritable problème, c'est lorsque les gens s'imaginent déjà comprendre les problèmes. Ouais. Alors que la réalité, c'est que lorsqu'il y a des chercheurs qui ont passé quelques années dessus, en général, ils comprennent un petit peu mieux que le commun des mortels de quoi il en retourne. Et il faut d'abord déconstruire avant de reconstruire le langage plus élaboré du chercheur. Donc c'est peut-être là le véritable challenge de ceux qui font des sciences humaines et sociales.
Ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors pour vous après cette thèse en 180 secondes, donc ce concours? Vous avez le sentiment que ça va un petit peu modifier votre parcours ou pas franchement?
Dans l'immédiat, je n'ai pas la pression. En tout cas, il me reste 2 années de thèse à faire. Je compte les faire et on verra ce qu'il advient ensuite. Je ne suis pas certain que ça va ouvrir forcément des portes. Ça va permettre peut-être de faire un peu plus de médias et de vulgarisation à gauche, à droite.
Et ça vous plaît, cette idée?
Ça me plaît beaucoup. Mais j'aimerais aussi continuer dans une carrière de recherche, une carrière académique. Et ce concours, voilà. Mais
ils sont tous les trois d'accord.
Hein. Voilà. Donc ce concours était une façon un peu de s'ouvrir à autre chose, mais pas forcément dévier de mon but principal.
Abdelkader, pour vous, une fois rentré au Maroc, vous espérez aussi pouvoir aller parler de science à un public plutôt profane?
Bien sûr, moi je parle souvent de science parce que là, c'est pas toujours au labo. Moi je sors dans les vergers, c'est évident. Je parle aux agriculteurs, je fais des études sur terrain aussi. Et du coup, ça m'aide beaucoup, c'est évident.
Oui,
et puis, pour après, oui, effectivement, je compte faire une recherche, une carrière dans la recherche. Et puis, pourquoi pas monter ma propre entreprise aussi, et pourquoi pas.
Et puis, vous aviez Najat Vallaud-Belkacem hier. Est-ce qu'elle vous a glissé un mot? Elle qui est née au Maroc, justement. Vous avez pu discuter avec elle un petit peu?
J'en suis fan, et mes amis aussi au Maroc.
C'est vrai.
Là, je voulais faire un selfie avec elle.
Et alors
elle m'a dit que est-ce que je peux prendre une photo avec toi? J'ai dit oui, c'est moi qui voulais en fait. Elle est vraiment très gentille, très ouverte d'esprit.
Donc vous avez eu une belle rencontre en tout cas.
Elle m'avait dit qu'elle était fière de moi. Je suis vraiment très fier de. Voilà.
En tout cas, nous, on est fiers de vous. Bravo pour cette nouvelle édition donc, de Ma thèse en 180 secondes. C'est la finale internationale. Je crois que l'année prochaine, ce sera organisé peut-être... Je ne sais pas si le pays encore a été au Maroc. C'est au Maroc, oui, c'est ça. Et puis ensuite, je crois la Belgique.
Ce sera à Liège pour le bicentenaire de l'Université de Liège.
Exactement. Voilà. Félicitations à vous. On peut retrouver toutes les infos sur mt180.fr avec vos prestations qui sont en vidéo. Le hashtag également qui sont déjà en ligne, mt180. Et vous restez avec nous parce qu'il y a plein de sujets qui vont vous intéresser. On va parler climat dans un instant justement avec notre prochaine invitée.
L'homme qui parlait disait je viens pour vous tendre, j'étais déjà tendu, j'allais pas répondre. Promet depuis la tribune, on attendra que ça tombe de la lune. Il est soulevé par la grâce, il dit qu'il va changer nos vies. Sous les dorures des palaces, on a juste peur qu'il oublie. L'homme qui parlait pensait, je vais les sécher. On était déjà sec, on n'a pas bronché. Quand tout est déjà noir, y a plus rien à craindre. Et chez nous, y a que l'espoir qui reste à éteindre. Il a plein d'autres choses à faire. Y a tellement de Miss Météo. S'il pense à nous entre deux verres, ce sera aux horaires bureau. C'est clair comme de l'eau, il le jure, dur comme fer. Partager le gros lot, ça il en fait son affaire. Ce sera l'Eldorado, il a les six bons numéros. Plus le complémentaire. Il le jure dur comme fer. Ce sera l'Eldorado. Il a les six bons numéros. Il le jure dur comme fer. Et sa voix se perd dans l'écho. Et sa voix se perd dans l'écho. Et sa voix.
Dur comme fer, Francis Cabrel, dans notre club des Têtes au Carré. Nos lauréats de ma thèse en 180 secondes, toujours avec nous, Pierre Barthélémy. On va parler du docteur Barthes dans un instant, on ira à Saint-Dié. Et puis nous sommes en duplex de Grenoble avec vous, Frédéric Haït Toiti. Alors vous êtes à la fois spécialiste de littérature comparée, historienne des sciences, chargée de recherche au CNRS et metteur en scène. Alors comme quoi justement, le lien entre l'art et la science, ça peut se faire sans problème.
Son problème, et je trouve que ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, ça m'a frappé, c'est des jeunes chercheurs et de superbes acteurs qui viennent dans ma troupe.
Ah, ben voilà.
Vous êtes où à cet endroit-là? Parce qu'on peut se retrouver d'ici trois jours. Hein.
Voilà, Alexandre, ça lui plairait bien.
Très bien.
Oui, très stand-up, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé votre prestation, Alexandre, hier, hein, sur la scène de la Sorbonne. Ça ne m'étonne pas. On va vous retrouver sur une scène, moi, je crois que c'est à peu près sûr. Frédéric Haït Toiti, vous travaillez depuis plusieurs années avec le sociologue et anthropologue Bruno Latour dans l'étude du théâtre de la science. Vous avez écrit également Contes de la Lune chez Gallimard en 2011, qui est un rapprochement entre l'art et la science aussi?
Oui, en fait, ce qui m'intéresse aussi bien dans mes recherches en histoire que dans ma pratique de théâtre, je crois, c'est de franchir ces fausses frontières qu'on a créées pendant quelques siècles, depuis quelques siècles, celles entre les soi-disant deux cultures. Donc finalement, dès qu'on se replonge dans des textes comme ceux de Kepler ou ceux qui m'ont passionné dans mon livre sur l'astronomie, on se rend compte que toutes ces questions-là n'ont pu être abordées qu'à travers le prisme des arts. Galilée a compris ce qu'il voyait à travers son télescope parce qu'il connaissait des notions de perspective. Et puis Kepler a réfléchi à la nouvelle cosmologie grâce à la fiction. Donc en fait, c'est tous ces passages-là qui me passionnent. Et je trouve que dans ce qui nous arrive aujourd'hui, dans la question du réchauffement climatique notamment, et puis toutes ces nouvelles technologies qui nous entourent, finalement, ce sont aussi des questions de perception, de passion et donc d'art qui sont posées.
Alors Gaïa Global Circus, donc c'est un spectacle conçu avec Bruno Latour qui va être présenté ce soir hein, dans le cadre du festival des Rencontres I Biennale Art et Sciences à Grenoble. C'est jusqu'au 10 octobre. Le spectacle tourne hein, lui déjà depuis maintenant 3 ans. Alors c'est une tragicomédie contemporaine dont le point de départ est la thématique du réchauffement climatique. Est-ce que justement le théâtre c'est un bon vecteur aujourd'hui pour intéresser les gens à ce dossier climatique?
Alors, on n'a pas vraiment pris le théâtre comme vecteur. On s'est plutôt dit que le climat était un bon sujet théâtral. Ouais. C'est-à-dire que, a priori, ça ne l'est pas. Quand Bruno Latour nous a proposé ce thème il y a quelques années avec Chloé Latour, Pierre Daubigny, qui en a écrit le texte, et puis toute la troupe, on s'est dit, mais quelle drôle d'idée, faire une pièce sur le climat. Et puis finalement, on a été emporté par le sujet. Et on s'est rendu compte que le climat était un sujet passionnant parce que il provoque des passions, justement, parce qu'il provoque cette tonalité d'alerte qu'on a en ce moment dans le discours des scientifiques, parce qu'il provoque de la part du public le déni, la peur, l'angoisse, le désarroi, toutes choses que le théâtre est parfaitement équipé pour en parler. Et puis aussi parce que la question du réchauffement climatique, c'est la question d'un nouveau personnage qui fait irruption sur la scène politique. Et ce personnage a été très très bien étudié par James Lovelock, ce scientifique un peu fou, très controversé, que tous les climatologues aujourd'hui sont en train de relire avec beaucoup d'intérêt en disant, mais finalement cette histoire du système Terre, ce lien entre géophysique, géochimie, la canopée, etc., et bien Lovelock l'avait déjà très bien décrit avec sa métaphore de Gaïa. Et ce personnage de Gaïa est un personnage éminemment théâtral.
Extrait de Gaïa Global Circus.
Monsieur Noé.
Oui.
J'ai peu de temps.
Ah, je sais, vous avez toujours peu de temps.
Oui, vous ne connaissez pas ça, vous, hein, vous avez l'éternité.
Non. Donc, dans cette arche, je pensais que je pourrais mettre...
L'ensemble des animaux, le vivant, les plantes.
Oui. Très bien. Alors, pour ça, j'ai un grand projet, un très beau bateau.
En bois, comme la semaine dernière.
Non, en plastique. Je vais récupérer tout le plastique qui pourrit sur la Terre.
Le plastique ne pourrit pas.
Quoi ?
Le plastique ne pourrit pas, c'est pas biodégradable.
Voilà Frédéric Haït-Touati. Alors l'un des thèmes justement de la pièce, c'est la difficulté d'entendre la parole scientifique.
Exactement. On est parti de l'idée que depuis des années, finalement, les chercheurs, les climatologues sont équipés pour nous dire ce qui se passe. Ils nous parlent d'acidification des océans, ils nous parlent de dioxyde de carbone et finalement, on n'entend rien. On est parti de ce point de départ et c'est le point de départ de la pièce. Un scientifique va à la télé, il essaye de parler et bien sûr, il est interrompu par un climato-sceptique et ensuite par un spécialiste, par un politicien professionnel qui arrive à l'interrompre. Et en fait, cette parole empêchée des scientifiques, c'était aussi un très très beau sujet de théâtre. Et on a imaginé, parce que la scène permet ça, que le scientifique devient fou, bascule et se transforme en Cassandre, en prophète. Voilà. Donc en fait, on a joué avec tous les discours qui tournent en ce moment autour du climat pour essayer de montrer à quel point finalement, on est obligé de faire ce que les jeunes chercheurs faisaient tout à l'heure, c'est-à-dire d'apprendre à parler directement et entendre cette parole qui n'est plus une parole, je dirais, froide, neutre. Aujourd'hui, quand on écoute vraiment les scientifiques, ils hurlent. Et c'est ça qui a été le point de départ de la pièce.
Il y a un tweet d'ailleurs pour vous, Adrien, d'un des sciences qui vous demande à quand le retour de l'enfant terrible du climat, El Niño, sa gravité gravité est-elle prévisible? Alors, que dit le mathématicien là-dessus?
Alors,
que disent les modèles?
El Niño est présent, en fait, pour l'instant, actuellement, dans l'océan Pacifique. Mm-hmm. Il était annoncé, d'ailleurs, il y a quelques mois. Il n'a pas eu lieu il y a quelques mois. Il a eu lieu en décalé. On ne sait pas trop pourquoi. C'est assez spécial. Et on annonce que ça va être un El Niño très puissant.
Oui.
Peut-être comparable à celui qu'il y a eu en 97-98, qui a été le plus gros enregistré.
Alors, on ne rit pas.
Oh, pardon, 97-98.
Mais c'est vos copains là, qui se marrent. Oui, ils sont désagréables.
C'est pas fun, ça. Désolé. Et donc, voilà. En tout cas, l'amplitude de celui qui est en train de se produire semble être grande. En ce qui concerne les futurs El Niño, c'est très difficile à prédire, puisque c'est difficile de prédire déjà quand ils vont avoir lieu. Donc l'amplitude, c'est encore pire.
Voilà. Frédéric Aïtouati, donc Gaïa Global Circus à Grenoble. Donc ce soir, vous avez combien de représentations en Isère?
On en a deux, mais ensuite on joue à Dijon pendant la COP. Mm-hmm. Il y a une scène assez importante de la pièce qui préjoue ou rejoue la COP et l'accord final. Et puis ensuite, on est au Canada et on espère encore partout dans le monde.
Voilà, du 1er au 4 décembre pour Dijon. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans le club. Et puis merci aux équipes de France Bleu Isère qui nous ont permis ce duplex.
La tête au carré. Le club.
Oh, ça fait du bien, ça.
Avec Mathieu Vida.
On va vous escorter, c'est plus prudent.
On les escorte, on y va, on les escorte,
allez. Sur France Inter.
Allez, direction Saint-Dié dans les Vosges. Bonjour Béatrice Collignon.
Bonjour.
Vous êtes professeure de géographie à l'Université de Bordeaux-Montagne et co-directrice scientifique de la 26e édition du FIG de Saint-Dié, Festival de géographie. Ça a commencé donc aujourd'hui jusqu'au 4 octobre avec pour thème les territoires de l'imaginaire, utopie, représentation prospective. Et le pays invité cette année, c'est l'Australie, c'est ça? Pourquoi ce pays?
Pourquoi l'Australie? Parce que en termes de producteurs de rêves, l'Australie se pose là. C'est un pays qui fait beaucoup rêver. C'est aussi un pays qui a été construit sur un imaginaire, celui des colons britanniques qui ont effacé, ce faisant, le pays qui existait et qui les précédait, qui était celui des aborigènes. C'est aussi un pays qui, aujourd'hui, attire beaucoup de migrants d'Asie du Sud-Est, mus par un imaginaire qui leur fait penser que là se trouve un bel avenir pour eux et qui se retrouvent, parce que l'imaginaire sur ces gens-là en Australie n'est pas nécessairement très positif, coincés dans des camps d'internement, dans des îlots au large de l'Australie, qu'ils ne pourront atteindre parce que on n'imagine pas qu'ils puissent s'y intégrer. Donc on est en plein dans le sujet.
Et les imaginaires donc déclinés pendant ce festival de géographie, avec comme chaque fois des rencontres avec des scientifiques, c'est le principe.
Oui, donc le principe, c'est que c'est un festival scientifique et populaire où l'on s'efforce de montrer que les scientifiques peuvent être compréhensibles, qu'ils peuvent s'adresser au grand public. On recherche, au fond, une éducation du grand public éclairée à travers une série de tables rondes, de conférences, où les géographes font l'effort d'être compréhensibles et à l'écoute aussi du public. Cette année, les géographes sortent dans la rue, organisent des ateliers en plein air. Il fait très beau dans les Vosges, donc on en profite pour créer, au fond, cet échange duquel émergent aussi parfois des questionnements scientifiques.
Pourquoi Saint-Dié dans les Vosges est la capitale internationale de la géographie? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas de particulier, Béatrice Collignon?
Parce que c'est à Saint-Dié que, pour la première fois, sur une carte de ce qu'on appelait alors le Nouveau Monde, on a écrit le mot « America ». C'est donc à Saint-Dié-des-Vosges qu'a été baptisé ce nouveau continent, qui lui aussi est un fort producteur d'imaginaire, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer.
C'est quand même pas rien. Et la question des cartes sera également abordée pendant le festival.
Oui. Et avec cette carte, on a là aussi cette preuve du pouvoir performatif de l'imaginaire, une imaginaire qui se met en image, une image qui représente quelque chose et qui, ce faisant, fait exister la chose. Au fond, l'Amérique existe bien avant qu'on ait compris ce qu'elle était, parce que on l'a mise sur une carte et on lui a donné un nom. Stephen Fife a écrit un très très beau livre à ce sujet.
Et on souhaitait vous faire un petit coucou donc pour le démarrage de ce festival, le FIG de Saint-Dié-des-Vosges, jusqu'au 4 octobre. Tout le programme est en lien sur le site internet fig.saint-dié-des-vosges.fr. Voilà, merci beaucoup Béatrice Collignon et bon festival.
Merci
à vous.
Merci.
Allez, dans un instant, la science improbable avec vous, Pierre Barthélémy et le docteur Barthes, qui est votre clone, je crois.
problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan.
Paul Simon à l'instant dans le club de la Tête au Carré avec notre dernier invité Pierre Barthélémy, la science improbable du docteur Barthes. C'est aux éditions Dunod avec Le Monde. C'est finalement le troisième volet de vos aventures, mais avec un nouveau personnage, celui-là.
En fait, il était déjà là, puisque le docteur Barthes, comme vous pouvez le deviner, c'est
un peu vous.
C'est un peu moi, mais ouais. Pas complètement moi. C'est la caricature amicale de l'illustratrice Marion Montaigne, que j'ai d'ailleurs rencontrée sur le plateau de la Tête au Carré, ouais. Il y a quelques années.
Ah ben voilà. Et qui a dessiné hier, justement, pour ma thèse en 180 secondes.
Et donc, c'est un peu moi, mais c'est aussi la caricature de tous les journalistes, c'est un peu vous aussi, Mathieu, de tous les journalistes qui continuent envers et contre tous à vouloir faire de la science dans les journaux. Quand je dis envers et contre tous, parce que c'est vrai que la science n'est pas toujours la bienvenue dans les journaux généralistes, c'est un peu la cinquième roue du carrosse.
Il faut se battre toujours ou pas ?
Ça dépend des journaux. Il y en a où on a une place qui est quand même assez réservée, où au Monde c'est le cas. Ouais. Mais pour d'autres titres, il faut vraiment se battre les jours.
Ouais. Alors c'est vrai que vous avez quand même creusé votre sillon aussi, Pierre, dans un genre particulier. C'est de dénicher aussi des études qui, a priori, suscitent quand même à la fois des questions, mais le sourire et nous interpellent d'une façon agréable quand même.
Voilà, la science improbable, c'est ça. C'est cette science qui répond à des questions parfois loufoques, dont on se demande parfois s'il faudrait vraiment financer ses recherches. Voilà. Mais dans le fond, derrière le moment de rigolade, il y a toujours des questionnements qui finissent par se poser. Et aborder la science par l'humour, c'est vraiment un moyen intéressant de faire venir les gens dans la recherche, qui est souvent un domaine qui leur fait peur.
Et de tout temps, on trouve des études absolument stupéfiantes, c'est-à-dire très récemment ou de façon un peu plus ancienne. En 1962, par exemple, dans un zoo de Oklahoma City, il y a des scientifiques qui sont amusés à donner du LSD à un éléphant. On se demande bien pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'était l'époque où on prenait du LSD.
C'est l'époque du LSD. Alors là, je dirais que c'est un peu le contre-exemple. C'est vraiment, pour le coup, l'expérience qu'il n'aurait vraiment pas fallu faire.
Parce qu'elle a mal fini.
Parce que ça s'est très mal terminé. Ces gens-là, en fait, ils avaient un questionnement intéressant. C'est ça qui est intéressant dans la science improbable. Il y a toujours une bonne question. La question, c'était les éléphants mâles, en fait, ils ont une période de l'année qui s'appelle le must, où ils deviennent fous et violents. Et ils essayaient de comprendre pourquoi. Et donc, l'idée, c'était de prendre un éléphant de zoo et de provoquer chez lui de manière artificielle ce must pour voir un petit peu ce qui se passait. Et ils se sont dit, le LSD, ça fait planer, ça rend fou, donc on va lui donner une dose de LSD. Et on va voir ce qui se passe.
Il a vraiment plané. Mais
le problème, c'est qu'en fait, on connaissait la dose qu'il fallait donner à un humain pour qu'il parte ailleurs. Et il aurait fallu simplement multiplier la dose par 40 ou 50, puisque c'est à peu près le nombre d'humains que la masse d'un éléphant représente. Ouais. Sauf qu'ils avaient peur que ça ne fonctionne pas. Donc, ils ont poussé la dose, mais vraiment très au-delà. Donc, ils ont donné la dose qui est 3000 fois supérieure à celle d'un humain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce pauvre éléphant est mort.
Ouais. En 100 minutes, ça a été très rapide, assez efficace. Rapide, donc, ça ne sert à rien. Alors, il y a un autre type qui, lui, s'est amusé à tester la réanimation chez les fox terriers. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'adore les fox terriers. J'en ai un moi-même. Et là, il y a une expérience affreuse.
Alors, il faut comprendre que ce monsieur qui s'appelait Robert Cornish, ça se passe dans les années 1930. C'est un Américain. Lui, ce qu'il veut, c'est réanimer les humains qui sont morts. Donc, il a quand même une question qui est vraiment intéressante. Hein. Oui. On n'est pas là pour faire juste de la réanimation de fox terrier. Mais simplement, il essaye sur des cadavres qu'il récupère à la morgue. Simplement, il se rend compte qu'il lui arrive beaucoup trop tard et que le sang a déjà coagulé et qu'il ne peut rien faire. Son idée à lui, c'était de faire basculer les corps sur une espèce de planche à bascule pour réactiver la circulation sanguine de manière artificielle. Donc il se dit, comme la mort ne donne pas rendez-vous, moi je vais le faire. Je vais donner rendez-vous avec la mort, mais pas sur des humains, sur des chiens. Je vais les tuer, et donc il les gaze. Et tout de suite après, comme ils viennent juste de mourir, il essaye de les ranimer pour voir si son système de bascule, il les met dans une espèce de berceau finalement, et avec il leur injecte des anticoagulants, de l'adrénaline, etc., pour voir s'il peut faire repartir la machine. Oui. Et donc il les appelle Lazare, ces chiens, on comprend à peu près pourquoi, et savoir si Lazare ressuscite ou pas. Lazare 1, il n'a pas ressuscité, le 2, le 3, pas terrible, et le 4, il ressuscite, mais c'est un légume, et le 5, il finit par ressusciter, par se lever et marcher et
aboyer.
Donc
il y a une expérience intéressante quand même.
Et ça a marché, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à l'arrivée, finalement, ce monsieur, il est déjà dans les prémices de la réanimation moderne. Ouais. Donc c'est pas non plus débile, quoi.
Ouais. On a essayé de redessiner l'Alaska, la bombe atomique, la bombe comme outil de travaux publics. Alors là, l'expérience n'a pas été tentée, hein, par contre.
Voilà, là ça fait aussi partie des expériences que vraiment il aurait pas fallu faire, mais il se trouve que quand même, on a essayé de... Enfin, les gens qui s'occupaient de la bombe atomique aux États-Unis et le papa de la bombe H en particulier, voyons que l'image de la bombe atomique n'était pas très bonne dans le public, et on comprend pourquoi, il y avait eu des essais qui ne s'étaient pas très bien passés sur les atolls de Bikini, a voulu redorer le blason de la bombe en disant mais ça n'est pas forcément un outil de guerre, ça peut être un outil de paix, de travaux publics, et l'idée c'est de creuser un port en Alaska, puisqu'il y avait beaucoup de charbon, d'hydrocarbures, etc., donc de creuser un port. Mais au lieu d'utiliser de la dynamite, on va utiliser un truc un petit peu plus puissant. Quelques bombes atomiques bien placées et on fait un port. Voilà.
Heureusement, ça n'a pas été fait.
Ça n'a pas été fait. Oui, quand même.
Un groupe de gens du coin qui était un petit peu.
Oui, voilà, il y avait des Inuits qui n'étaient pas vraiment d'accord pour qu'on fasse des retombées radioactives sur le territoire de chasse.
Voilà, ça s'appelle la science improbable du docteur Barthes. Vous reviendrez, Pierre Barthélémy. Ça me donne des idées à votre sujet parce que j'aime beaucoup vos histoires. Il se trouve qu'on n'en a pas eu assez aujourd'hui. C'est aux éditions Duno, illustré par Marion Montaigne. Il faudra offrir le livre à nos camarades de ma thèse en 180 secondes. Parce qu'évidemment, ça va beaucoup les faire rire aussi. Merci beaucoup d'être venu et félicitations encore à nos camarades thésards.